Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le président de la République et 400 députés français sont donc à Berlin aujourd'hui, vous l'avez entendu, pour célébrer les 50 ans du traité de l'Élysée. L'occasion pour Franck Ferrand de ressusciter ce grand moment de notre histoire récente. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le 22 janvier 63, évidemment, De Gaulle et Adenauer décidaient, non sans panache, de tourner la page d'un siècle ou près d'un siècle de conflit franco-allemand. D'un seul coup, Sedan et Versailles, 14 et 40, étaient relégués au magasin des souvenirs historiques pour faire place à une amitié franco-allemande qui depuis, disons-le, ne s'est jamais démentie.
Et vous avez choisi de nous faire vivre aujourd'hui sur Europe 1 cette naissance du couple franco-allemand.
Oui, ne serait-ce que pour prendre conscience de la difficulté d'une telle décision à l'époque. Aujourd'hui, l'amitié franco-allemande nous paraît évidente, mais comme tout ce qui est devenu évident, ça avait commencé par paraître impensable. Je vous propose donc de faire un petit bond d'un demi-siècle en arrière, on va pas très loin aujourd'hui, afin de nous replacer dans l'état d'esprit des gens de cette époque.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le fameux couple franco-allemand incarné successivement dans les amitiés Giscard-Schmitt, Mitterrand-Kohl, Sarkozy-Merkel, ce fameux couple est sans aucun doute composé de deux pays d'importance comparable et qui ont toutes les raisons de s'entendre, à commencer par des origines en grande partie communes, on va y revenir tout à l'heure, mais qu'on le veuille ou non, ce sont des pays de nature et d'âge bien différents. D'un côté, la vieille France unifiée pendant 15 siècles par ses 40 rois et rationalisée par sa révolution et par les régimes qui ont suivi. De l'autre, une mosaïque de principautés liées entre elles par toutes sortes d'intérêts, par la langue évidemment, la culture, la musique, mais qui ne sont devenus un seul pays que par la volonté de la Prusse et du reste sur le dos de la France. L'acte de naissance de la France, c'est le baptême de Clovis en 498. Celui de l'Allemagne, 13 siècles plus tard, c'est la proclamation de Versailles en 1871. À cette époque, la Prusse vient de mettre à genoux la France de Napoléon III. Les troupes d'invasion font le siège de Paris, vous savez, et le roi de Prusse, avec son chancelier de fer, Bismarck, se sont installés dans la ville de Versailles. C'est là qu'ils convoquent littéralement tous les princes allemands afin de proclamer la naissance d'un nouvel empire, donc dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871. Cette Galerie des Glaces, que les Prussiens appellent Galerie de Verre, a été sobrement aménagée pour la circonstance. Au centre, adossé aux fenêtres, du côté de la perspective, on a installé un autel pour une cérémonie religieuse. Au fond, devant l'arcade du Salon de la Guerre, c'est-à-dire exactement à l'opposé de l'endroit où on installait autrefois les estrades pour les rois de France. On a donc monté une estrade garnie de porte-drapeaux et couverte d'altesses germaniques. Il y a là le prince Charles de Prusse, le grand-duc de Saxe-Weimar, le grand-duc d'Oldenbourg, le grand-duc de Bade, les ducs de Saxe-Cobourg, de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg, les princes Léopold et Othon de Bavière, le prince Guillaume de Württemberg et le duc Eugène, le prince héréditaire Léopold de Hohenzollern, le duc de Holstein, etc. Le roi Guillaume adresse à ses hôtes une courte allocution, puis le chancelier Bismarck donne lecture de la proclamation au nouveau peuple allemand. Je cite « Nous acceptons la dignité impériale » il parle au nom de son roi qui devient empereur « la dignité impériale dans la conscience de défendre l'indépendance de l'Allemagne appuyée sur la force enfin réunie de tout son peuple. » À la fin de la cérémonie, le grand-duc de Bade ayant acclamé Guillaume comme empereur d'Allemagne, toute l'assemblée se met à répéter trois fois l'acclamation et les L'écho de ces hurrahs résonne sous la voûte où les peintres de Louis XIV jadis avaient illustré la suprématie de la France sur l'Europe en général et sur la mosaïque des principautés allemandes en particulier. Humiliation terrible donc pour une France qui jusqu'ici avait toujours regardé l'aimable Allemagne, comme on disait, l'Allemagne philosophique, celle de Madame de Staël en somme, comme un nain politique. Après cette défaite absolue de 1870-71 et après l'amputation de l'Alsace Moselle, ce sera la préparation de la revanche, avec tous ces bras de fer de plus en plus corsés avec le Kaiser Guillaume, c'est le petit-fils de celui dont je viens de parler évidemment. Et puis, la Grande Guerre, tellement fratricide de 14-18, en attendant le délire nazi et l'occupation implacable de 1940-1944. Tout cela avait créé de terribles blessures, des blessures à vif, des blessures béantes et qui paraissaient inguérissables. Il devait appartenir à un vieux chancelier chrétien-démocrate, ancien opposant au nazisme, Konrad Adenauer, et au champion de la France libre, revenu au pouvoir après sa traversée du désert, Charles de Gaulle. Il devait à tous deux leur revenir de réconcilier les deux États et de fonder les bases d'une coopération véritable pivot de la construction européenne. C'est ce tour de force politique et diplomatique que nous allons tenter de revivre à présent.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Gym sur Europe, un extrait de la BO du film de François Truffaut. Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités. Hélène Mière-Delacroix, qui est historienne spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Elle a dirigé avec Rainer Markowitz l'ouvrage 50 ans de relations franco-allemandes chez Nouveau Monde Édition. Et avec nous, Birgit Holzer, qui est journaliste au magazine Paris-Berlin et correspondante pour la presse régionale allemande en France.
Oui, bonjour à vous deux. Merci de nous avoir rejoints en ce jour anniversaire. Il faut peut-être dire un mot de cette musique, Jules et Gym. On se demande
pourquoi elle débarque comme ça.
C'est un Français, un Allemand, n'est-ce pas? C'est toute l'amitié franco-allemande, et c'était très symbolique à l'époque où sort le film, c'est-à-dire justement dans cette année 63, très marquée par cette réconciliation tout à fait historique et assez inouïe. Aujourd'hui, on célèbre les 50 ans de cette réconciliation, évidemment ça paraît évident, à l'époque ça ne l'était pas. Nous avons en ligne Bernard de Montferrand, qui était ambassadeur de France en Allemagne de 2007 à 2011. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Alors évidemment, cette réconciliation franco-allemande aujourd'hui, ça paraît être une évidence. Tout le monde trouve que, évidemment, nous sommes deux peuples amis, même si, évidemment, la crise économique et tout ce que nous vivons en ce moment crée de temps en temps des ombres au tableau. Évidemment, en 1963, ce n'était pas le cas. Est-ce que toutes les personnalités qui sont réunies à Berlin aujourd'hui pour célébrer le cinquantenaire sont conscientes du tour de force qui a été réalisé à l'époque ?
Moi, je crois, parce qu'on est très sensible à cette sorte d'événement historique. On se rappelle peu, d'ailleurs, que la première année où, en France comme en Allemagne, après la guerre, les opinions positives sur le voisin ont commencé à l'emporter sur les opinions négatives, c'est 1959.
Mais oui.
Parce que la guerre était encore extrêmement proche, un peu plus d'une dizaine d'années. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle et Adenauer, avec leur sens politique incroyable, ont senti qu'il fallait sauter sur cette espèce de basculement, et qu'ils en ont, ils ont transformé ça en ce qui est devenu, mais ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, un phénomène historique.
Alors vous étiez ambassadeur pendant, on va dire, pendant cette lune de miel qui au départ avait commencé très, très difficilement entre le président Sarkozy et la chancelière Merkel. Vous avez vécu au quotidien ces relations franco-allemandes. Est-ce qu'on peut parler de relations d'État à État ou véritablement d'une co-relation de partenaires dans l'Europe ?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des sociétés civiles où on se voit malgré tout plus qu'avec aucun autre peuple, puisque tous les ans, l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, organise plus de 200 000 voyages et stages ou de séjours de jeunes Allemands ou de jeunes Français dans l'autre pays. Deuxième chose, il y a tous les jumelages de villes qui sont extrêmement importants. On en a avec aucun autre pays d'un tel nombre. Ensuite, il y a les rencontres continuelle entre chefs d'État. Par exemple, en Allemagne, il y a plus de 55 ou 56 visites de ministres français par an, et la chancelière et le président de la République se parlent constamment.
Oui, c'est ça.
Le nombre de sommets pour arriver à trouver des solutions à la crise de la zone euro, il y en a eu près d'une trentaine. Ça veut dire qu'il y a une intensité de dialogue avec des rencontres bilatérales qui sont sans aucune comparaison avec aucun autre pays.
Est-ce que les difficultés économiques actuelles de la France ont tendance à établir une sorte de fissure, de faille entre les deux pays ? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont plus difficiles qu'elles n'étaient il y a quelques années ?
Il n'est jamais bon qu'un des deux partenaires se sente pas bien. Au début des années 2000, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe et les Allemands n'étaient pas bien dans leur peau. Bon, aujourd'hui, la France a l'impression d'un décrochage. Alors, les Allemands ont fait ce qu'il fallait, sont revenus au premier rang de la compétitivité, etc. Il ne tient qu'à la France aujourd'hui de faire la même chose, et j'ai l'impression que difficilement, mais effectivement, on commence à prendre les décisions qu'il faut. Mais ce qu'il faut jamais oublier dans les discussions entre les Français et les Allemands, c'est que c'est jamais facile, c'est que ça n'a jamais été facile, même au temps du général de Gaulle et de Konrad Adenauer. Konrad Adenauer ne voulait pas l'Angleterre, voulait l'Angleterre dans le marché commun, ce qui n'était pas le cas de la France. On voulait un tout petit marché commun, les Allemands voulaient.
Alors on va y venir à tout ça, bien entendu, ce sera l'objet de cette émission. Merci beaucoup Bernard de Montferrand de nous avoir donné cet aperçu de votre propre expérience de cette relation très intense entre la France et l'Allemagne. Nous allons voir d'où nous venions à cette époque-là. Merci beaucoup. Alors, Hélène Millard de la Croix, on peut dire que après la guerre, évidemment, un rapprochement entre France et Allemagne paraît certes nécessaire sur un plan politique, mais extrêmement difficile sur un plan affectif, tout simplement.
Alors c'est en effet extrêmement difficile parce qu'il y a aussi un déséquilibre dans la douleur, j'allais dire. Même si la population allemande a subi les bombardements à la fin de la guerre, il y a quand même, si vous voulez, une notion de rapport entre victime et ancien bourreau. Il est en même temps, je crois, erroné de faire naître la réconciliation franco-allemande avec de Gaulle et Adenauer en 1963, puisque les premiers contacts ont quand même été noués dès la fin des années 40. Le premier jumelage de ville, c'est Montbéliard-Ludwigsburg 1950. Et ce qu'ont su faire avec leur génie Adenauer et de Gaulle, c'était de transformer ce tissu qui commençait à descendre très profondément dans les sociétés avec des gens qui étaient convaincus qu'il fallait tourner la page, de le transformer en un dispositif contraignant qui obligerait les dirigeants et bien évidemment la jeunesse, à se rencontrer pour se parler.
Oui, mais alors c'est vrai qu'effectivement, avant de parler de Gaulle et d'Adenauer, il faut rendre hommage à Robert Schuman. On l'avait fait en compagnie de Jean-Marie Pelt à ce micro il y a quelques mois. Personnage un peu oublié aujourd'hui, qui a été un des très grands personnages de ce milieu du XXe siècle, et qui lui avait vraiment œuvré pour ce rapprochement. On peut dire qu'il a été le pionnier de cette affaire.
Tout à fait, et il avait bien évidemment avec lui aussi Jean Monnet et déjà Konrad Adenauer. Et quand le 9 mai 1950, Robert Schuman fait sa déclaration pour proposer de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier pour rendre la guerre matériellement impossible mais aussi impensable, il jette en fait les bases de ce que va être la coopération depuis ces années.
Alors, quelles étaient les circonstances dans lesquelles s'inscrivait ce traité de l'Élysée ? Pas oublier, évidemment, qu'on est dans une période de forte domination économique, culturelle, politique des États-Unis, bien entendu. Certains sont tentés par l'atlantisme, c'est-à-dire un rapprochement avec les États-Unis. Nous venons sur tous ces sujets dans un instant.
Au cœur de l'histoire.
Et nous revenons aujourd'hui sur Europe 1 sur le traité de l'Élysée, un des textes les plus importants de notre histoire récente, signé le 22 janvier 1963.
Et oui, en compagnie d'Hélène Millard de la Croix et de Birgit Holzer, vous écrivez des articles dans cette revue qui s'appelle Paris-Berlin. C'est un magazine pour l'Europe qu'on peut trouver en kiosque, il faut le dire.
On peut le trouver, on peut aussi s'abonner évidemment, et on peut le trouver en kiosque en France et en Allemagne. C'est un magazine qui parle dans les deux langues pour ceux qui sont intéressés par l'autre.
Alors il y a je pense qu'on peut dire que à la fin des années 80, dans les années 90, il y avait eu un fort élan, notamment créé par la chaîne de télévision Arte. Je sais que beaucoup de Français se rendaient à Berlin, c'était tout beau, tout nouveau, le mur de Berlin venait de tomber. On avait toujours beaucoup de touristes allemands en France, évidemment, ça n'a pas tellement changé d'ailleurs. Mais on a l'impression que tout ça est un peu retombé. Vous le ressentez, vous, dans le cadre d'un magazine comme le vôtre, vous avez l'impression que l'espèce de déflorescence est un petit peu derrière nous.
J'ai pas l'impression, non. Je pense qu'il y a peut-être un petit changement maintenant. C'est aussi des sondages qui viennent de paraître qui montrent ça un petit peu, qu'il y a une certaine désaffection des Allemands peut-être.
Voilà, oui.
Concernant les Français, parce qu'on regarde aussi les autres pays, on s'intéresse aussi pas seulement à cette amitié franco-allemande. Par contre, je pense quand même qu'en France, on se concentre beaucoup sur l'Allemagne en ce moment. J'ai l'impression. Et aussi, certainement, c'est la ville de Berlin qui joue un grand rôle, qui attire beaucoup les jeunes, surtout. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et le fait aussi que Moi, je travaille aussi pour des journaux régionaux en Allemagne et je parle presque tous les jours de la France. Et le fait qu'on s'intéresse toujours autour de la France, pour moi, c'est un très, très bon signe que cet intérêt, il existe toujours.
Alors, nous venons de voir qu'en 1950, Robert Schumann avait fait faire un grand pas en direction de l'Allemagne. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, 1950, le général de Gaulle, lui, n'est plus au pouvoir. Il est parti en janvier 1946. Il ne reviendra que plus tard, en 1958. Et il est le principal et le plus virulent adversaire de cette politique-là. Et notamment, s'il y a une chose qu'il déteste par-dessus tout, c'est la communauté, le projet de communauté européenne de défense, la CED, sur laquelle il tire à boulets rouges.
Il va en effet tirer à boulets rouges et participer d'ailleurs à l'échec de ce projet qui avait quand même été d'abord proposé par le chef du gouvernement français. Mais il tire à boulets rouges sur toute l'idée de transfert de souveraineté à l'Europe. Et il a aussi tiré à boulets rouges sur les traités de Rome. C'est pourquoi quand il revient au pouvoir en 1958, Adenauer, le premier, est assez réticent et les Allemands se disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce grand... »
Ça va être la fermeture.
Mais oui, ça va être la fermeture et puis c'est quand même le grand homme, le militaire, qui incarne une grandeur de la France et où l'Europe doit être au fond un
qui
moyen
était quand même,
de...
disons-le, le grand, enfin, pour ce qui est de la France, le grand opposant, certes au nazisme, mais donc par voie de conséquence à l'Allemagne. Donc on se méfie du général de Gaulle.
Mais aussi, et puis on imagine qu'il va utiliser l'idée de la construction européenne pour servir les intérêts français, la grandeur de la France, et pas du tout ce dans quoi on investit au fond depuis déjà une quinzaine d'années, c'est-à-dire la construction d'une Europe communautaire qui équilibre au fond les intérêts des uns et des autres.
Et puis voilà que le général de Gaulle, tout de suite, j'allais dire, on est en septembre 58, convie le chancelier allemand à le retrouver, et non pas à le retrouver à Paris, comme on aurait pu l'imaginer, mais chez lui, dans sa demeure privée de la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises. Or ça, c'est tout à fait extraordinaire, car le général de Gaulle ne recevait jamais de chef d'État chez lui.
Et en effet, Adenauer est le seul chef d'État étranger qui ait dormi à la Boisserie.
Gouvernement, disons.
Oui. Enfin, chef de gouvernement étranger, représentant d'un pays étranger, qui est dormi à la Boisserie, et ça a été, Adenauer l'a raconté après, absolument époustouflant pour Adenauer de vivre au fond ce moment, ces échanges longs avec de Gaulle, avec lequel au fond il a découvert qu'il partageait beaucoup d'analyses et notamment leur vision des rapports de force entre l'Est et l'Ouest, parce que 1958, c'est le moment où Khrouchtchev essaie par un tour de force d'éliminer la situation spécifique de Berlin-Ouest.
Et voilà, et ça c'est évidemment, il y aura bientôt le mur de Berlin en août 61, il faut replacer tout ce rapprochement franco-allemand dans ce contexte de guerre froide, de guerre extrêmement dure entre l'Union soviétique et les États-Unis. Or, il y a dans le gouvernement fédéral allemand de l'époque un certain nombre de ministres qui, eux, je pense notamment à Gerhard Schröder, alors attention à ne pas confondre avec le Gerhard Schröder que l'on a connu, nous, chanceliers, il y a quelques années, un autre Gerhard Schröder qui est ministre des Affaires étrangères et qui est très proche de Washington, qui est, comme on dit, atlantiste. Donc, évidemment, autour même d'Adenauer, il y a des gens qui regardent ce rapprochement avec la France avec une certaine méfiance de leur côté. Birgit Holzer, oui.
Oui.
On peut dire qu'il y a il y a une sorte d'inquiétude dans le gouvernement allemand, autant que du côté français, en fait.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'un des objectifs d'Adenauer, c'était, au fond, de multiplier ses appuis. Il considérait que l'assurance américaine était là et qu'il était raisonnable, au fond, au regard des transformations stratégiques des États-Unis vis-à-vis de l'Union soviétique, d'avoir plusieurs appuis et avoir un bon appui solide en Europe sur la France, en plus de la Grande-Bretagne que l'on souhaitait voir entrer dans le marché commun, c'était quelque chose de souhaitable. Il y a d'autres, en revanche, dans son gouvernement, qui considéraient que c'était folie et que sacrifier ce soutien américain sur l'autel de potentiel et putatif construction européenne avec Paris, c'était complètement déraisonnable.
Alors nous allons voir comment, concrètement, s'est négocié ce traité de l'Élysée, dont on célèbre donc aujourd'hui le 50e anniversaire.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous plonge maintenant au cœur même du traité de l'Élysée.
Et oui, alors ce traité de l'Élysée a donc été signé au tout début de l'année 1963, mais il a été préparé dès l'automne 1958 par un général de Gaulle qui s'est révélé beaucoup plus pro-allemand que ce qu'on aurait pu penser. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle est investi par l'Assemblée en juin 58. Il n'est pas encore président de la République, là, évidemment. Et il va faire ce geste dont on parlait, extraordinaire, le 14 septembre, il reçoit à Colombey-les-Deux-Églises, il reçoit Adenauer, qui lui a 82 ans. Donc le général de Gaulle en a 68. Ils vont s'entendre assez extraordinairement. Je vous cite un extrait des Mémoires d'Espoir. « Je réponds au chancelier que si nous sommes tous deux ensemble dans ma maison, c'est parce que je crois le moment venu pour mon pays de faire vis-à-vis du sien l'essai d'une politique nouvelle. » Le général de Gaulle, d'ailleurs, dans ses Mémoires d'Espoir, écrit « Dès qu'il a compris que mon retour était autre chose qu'un épisode, le chancelier a demandé à me voir. » Et alors il raconte « C'est à Colombey-les-Deux-Églises que je le reçois les 14 et 15 septembre 1958. Il me semble en effet qu'il convient de donner à la rencontre une marque exceptionnelle et que pour l'explication historique que vont avoir entre eux, au nom de leurs deux peuples, ce vieux français et ce très vieil allemand, le cadre d'une maison familiale a plus de signification que n'en aurait eu le décor d'un palais. Ma femme et moi faisons donc au chancelier les modestes honneurs de la boisserie. » De Gaulle est en position de supériorité, rappelle le professeur Soutou. Il sait admirablement en jouer, mais sans jamais y faire allusion lourdement. L'Allemagne est divisée, elle est encore obérée par le passé récent de la Seconde Guerre mondiale, elle est soumise en droit international à l'accord des quatre grands pour ce qui concerne Berlin et l'Allemagne dans son ensemble. Quant à Adenauer, tout son objectif est de se rapprocher de la France sans rompre avec les autres partenaires de l'Europe des Six, ni avec Washington, c'est bien toute la difficulté d'ailleurs. En fait, le rapprochement avec Paris doit lui servir de réassurance en cas de lâchage de la RFA par les États-Unis. C'est la grande crainte du chancelier, dont de Gaulle joue d'ailleurs assez cyniquement. Il faut dire que les relations entre l'Allemagne et la France vont prendre d'emblée, à ce moment-là, le tour de relations extrêmement personnelles entre ces deux hommes. Jusqu'au milieu de 1962, Konrad Adenauer et moi-même nous écrirons une quarantaine de fois, écrit le général de Gaulle dans ses mémoires. Nous nous verrons à 15 reprises, soit le plus souvent à Paris, Marly, Rambouillet, soit à Baden-Baden et Bonn. Nous nous entretiendrons plus de 100 heures, ou en tête-à-tête, ou aux côtés de nos ministres, ou en compagnie de nos familles. Puis, comme j'entends que les rapports nouveaux des deux nations si longtemps adverses soient consacrés avec solennité, j'invite le chancelier à faire en France une visite officielle. Déjà en juin 61, le président de la République fédérale, Heinrich Lübke, avait avec discrétion fait à Paris un voyage d'État. Au mois de juillet 62, voici que paraît en public sur les places et les avenues de notre capitale le chef du gouvernement allemand, écrit de Gaulle. L'accueil qui lui est fait, en particulier par la foule, témoigne de l'estime que l'on porte à sa personne, ainsi que du crédit qui est ouvert à la politique de réconciliation et de coopération à laquelle il s'est voué. Après l'accueil de Paris, a lieu au camp de Mourmelon une imposante cérémonie militaire. Là, le général de Gaulle, c'est de Gaulle qui écrit ça, c'est comme Caesar Pontem Fecit, c'est comme Jules César, il parle à la troisième personne. Là, le général de Gaulle reçoit devant les drapeaux le chancelier Konrad Adenauer. Tous deux, debout côte à côte dans une voiture de commandement, passent en revue une division blindée française et une division blindée allemande qui font assaut de belles tenues. Ensuite, entourés de leurs ministres et de beaucoup de notabilités, ils voient défiler devant eux ces grandes unités survolées par des formations aériennes des deux pays. Le voyage, et là attention, le voyage se termine à Reims. Reims, écrit de Gaulle, symbole de nos anciennes traditions, mais aussi théâtre de mains affrontement des ennemis héréditaires depuis les anciennes invasions germaniques jusqu'aux batailles de la Marne. À la cathédrale, dont toutes les blessures ne sont pas encore guéries, et oui, on est donc là encore en 62, et la cathédrale vient d'être reconstruite seulement, dans cette cathédrale, le premier français et le premier allemand unissent leurs prières pour que des deux côtés du Rhin, les œuvres de l'amitié remplacent pour toujours les malheurs de la guerre. Plus tard, et jusqu'à la mort de mon illustre ami, nos relations se poursuivront suivant le même rythme et avec la même cordialité. Ça a été un moment intéressant, évidemment, de cette visite officielle, que cette façon qu'a eu le général de Gaulle d'enlever littéralement à l'improviste, quand je dis à l'improviste, en tout cas ça n'était pas inscrit dans le programme officiel de la visite, d'enlever le chancelier, de l'amener à Reims pour assister à cette messe. C'était en quelque sorte c'était tourner le dos à un millier d'années de malentendus, même si le véritable contentieux franco-allemand datait d'environ 100 ans. Pour De Gaulle et pour Adenauer, il y a eu ce moment vraiment de compréhension, disons-le. Et puis, en septembre 62, c'est le parcours triomphal de Gaulle en République fédérale, assorti de ses discours en allemand, quand je dis discours, enfin quelques phrases en allemand qui évidemment mettaient les foules en transe, et qui, il faut se remettre là encore dans le contexte hein, de cette année 1962, qui était un moyen aussi de déculpabiliser une partie de la population allemande. Le traité sera signé à l'Élysée en janvier 63, ratifié par l'Assemblée nationale et le Sénat français en juin et juillet, au moment même du voyage en République fédérale du président des États-Unis Kennedy, tout un symbole. Et vous voyez à quel point il s'agit bien en vérité d'un jeu de bascule entre une alliance européenne avec la France et cette alliance atlantique tellement essentielle pour l'Allemagne de cette époque. J'aimerais que nous entendions un extrait de l'interview qu'a donné le général de Gaulle. Alors ça, c'était en juillet 1963. Il se trouve, donc on est après la signature des fameux accords, hein, du traité de l'Élysée, le 4 juillet 1963, au micro européen de René Duval, le général de Gaulle parle justement de ce rapprochement historique entre les deux pays.
L'Allemagne peut être certaine que c'est un grand plaisir et aussi un grand avantage pour le président de la République française de se trouver une fois de plus dans ce noble et beau pays et d'avoir pu commencer ce matin d'importantes conversation avec monsieur le chancelier Adenauer, mon ami. Ces conversations sont également conduites avec les ministres du gouvernement français et du gouvernement fédéral allemand. C'est là une grande nouveauté qui est la première application pratique de notre traité de coopération franco-allemand. Je m'en félicite et nos deux pays, je le crois, ont à s'en féliciter. C'est donc le cas aussi pour l'Europe et pour le monde libre. Vive l'Allemagne !
Le général de Gaulle au micro d'Europe numéro 1 en juillet 1963. Certes, écrit le général dans ses mémoires d'espoir, des divergences apparaîtront par la suite à mesure des circonstances, mais elles seront toujours surmontées. À travers nous, les rapports de la France et de l'Allemagne s'établiront sur des bases et dans une atmosphère que leur histoire n'avait jusqu'alors jamais connue.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous célébrons aujourd'hui sur Europe 1 les 50 ans du traité de l'Élysée, toujours en compagnie Franck, de l'historienne spécialiste de l'Allemagne contemporaine, Hélène Miard-Delacroix, et Birgit Holter, qui est journaliste au magazine Paris-Berlin.
Alors justement, Hélène Miard-Delacroix me faisait remarquer, là, pendant la publicité, que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un millier d'années de malentendus franco-allemands et un siècle d'affrontements. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plus d'un siècle d'affrontements. Si on parle de la guerre de 30 ans au début du XVIIe siècle, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg à la fin de ce même siècle, ensuite, évidemment, des guerres de la Révolution et de l'Empire, il y a eu pas mal de frictions et parfois même de campagnes extrêmement dures. On pense à l'incendie du Palatinat, hein, ordonné par Louvois. Ça a été extrêmement violent. Mais ces campagnes, avant la guerre de 1870, elles s'effectuaient sur le territoire allemand. Oui. Ce qui fait que les Français n'en avaient pas vraiment conscience. Voilà. Le problème, c'est qu'à partir de 70, et à trois reprises, en 70, en 14, 18 et en 39-45, c'est sur le sol français que ça se passe. Alors évidemment, ça a une autre résonance.
Et une attaque allemande à chaque fois.
Et à chaque fois, des attaques allemandes, oui, voilà. Même si c'est officiellement la France qui déclare la guerre. Voilà. Enfin bon, dans quelles conditions? Certes. Alors, les deux, j'ai beaucoup donné la parole, si l'on peut dire, et même tout à fait directement au général de Gaulle dans cette émission. L'autre figure qu'il ne faut pas oublier, bien entendu, c'est ce très vieux chancelier, hein, c'est ce chancelier Konrad Adenauer, qui, de son côté, va contre l'avis d'une grande partie de son propre gouvernement, avancer dans cette alliance avec la France. Si on devait décrire Adenauer et l'image qu'il a laissée au peuple allemand jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui, Birgit Holzer? C'était un homme de modération, un homme de caractère aussi sans doute?
C'était certainement aussi un homme courageux, comme vous dites aussi. Après, je pense qu'on a toujours tendance en France et en Allemagne de glorifier aussi un peu l'histoire, hein, comme on glorifie parfois Charles de Gaulle. Mm-hmm. C'est peut-être pareil pour Konrad Adenauer, qui était quand même le chancelier qui avait cette forte responsabilité peut-être d'ancrer encore l'Allemagne dans l'Europe ou de redonner un peu de la confiance aussi à son peuple. Donc je pense qu'il est est quand même vu que justement quelqu'un de courageux, quelqu'un de modéré peut-être aussi, parce qu'il a fait ce pas aussi, qui n'était pas forcément évident à l'époque.
Alors Adenauer avait un problème, c'était un problème d'âge évidemment, il va finir par se retirer et c'est avec Ludwig Erhard qu'il faut que de Gaulle continue. Et là c'est déjà nettement plus difficile, Hélène Miard de la Croix.
Oui, d'autant plus que si Adenauer et de Gaulle ont signé ce traité en janvier 63, c'était comme je l'ai dit tout à l'heure, pour contraindre leur successeur à continuer le travail engagé, puisque en janvier 63 Adenauer sait déjà qu'il va se retirer à l'automne, puisque c'est une démission prévue qui lui a été extorquée par son parti et notamment par celui qui va être son successeur, Ludwig Erhard, qui est connu un peu parce qu'il est le père du miracle économique et du modèle donc d'économie sociale de marché, mais qui avait surtout comme caractéristique d'être extrêmement atlantiste et de ne pas beaucoup supporter de Gaulle. Mais et oui. C'est avec lui que de Gaulle va devoir appliquer le traité.
Donc là, il y a Erhard et Schröder, encore une fois l'ancien Schröder, hein, qui sont tous les deux très favorables à l'alliance atlantique, ce qui ne va pas en faveur évidemment du traité de l'Élysée et du développement d'une amitié franco-allemande.
Qui va contribuer à l'ajout par le Bundestag au printemps 63. Au moment de la ratification, d'un préambule qui vide complètement de sa substance le grand projet qu'avait de Gaulle, qui était au fond de faire en petit, en bilatéral avec l'Allemagne, ce qu'il n'avait pas bien réussi à imposer en Europe avec les plans Fouché en 62, lorsqu'il avait ce projet d'une Europe intergouvernementale. Les autres Européens lui avaient claqué la porte. Il faut donc voir cette dimension aussi franco-allemande comme ersatz, si vous me permettez le terme, d'une construction européenne selon un modèle gaullien.
Voilà, alors le général de Gaulle en plus s'est opposé bec et ongle à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun à l'époque. Et évidemment, de Gaulle non plus n'est pas éternel et ses successeurs vont accueillir l'Angleterre à bras ouverts. Là encore, c'est un problème, ça, pour le couple franco-allemand.
Oui, alors, à bras ouverts, je ne suis pas sûre.
C'est
Pompidou qui accueille la Grande-Bretagne dans un contexte un peu différent, c'est-à-dire à la fin des années 60, lorsque les choses ont bougé en Allemagne et que ce qu'on appelle l'Ostpolitik se met en place. Et d'une certaine façon, on accède à Paris à cette demande de Londres, en considérant que la Grande-Bretagne dans l'Europe va rééquilibrer un petit peu la relation avec une Allemagne qui a l'air de devenir un petit peu autonome dans la gestion de ses relations avec ses voisins de l'Est. Ah oui. Donc vous voyez que il y a toujours des arrière-pensées, ça ne veut pas dire qu'on soit méfiant, mais on ne comprend bien les relations franco-allemandes que dans un cadre plus général européen et de la guerre froide.
Alors, Birgit Holzer nous disait à l'instant qu'on a tendance à glorifier un peu les personnalités. Force est d'admettre que ce sont bien les personnalités qui ont fait cette amitié franco-allemande, d'ailleurs souvent contre leur propre gouvernement. Alors, il y aurait là tout un... Il faudrait entrer d'ailleurs dans le détail de vos propres livres, Hélène Miard de la Croix, mais les gouvernements et français et surtout allemands n'étaient pas toujours très favorables, et ce sont les hommes d'État eux-mêmes, c'est-à-dire le président de la République française et le chancelier fédéral, qui vont faire avancer cette amitié. Le plus beau cas qu'on connaisse, évidemment, c'est l'amitié très profonde et réelle entre le chancelier Helmut Schmidt et le président Giscard d'Estaing.
Oui, tout à fait, et qui seront suivis d'ailleurs par une autre paire, qui est Helmut Kohl et François Mitterrand, extrêmement différents, de partis différents, et qui ont aussi établi cette relation de confiance et qui ont transformé, la construction européenne dans ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire vers un marché unique et vers l'euro.
C'est-à-dire qu'en fait, ce couple franco-allemand, il n'existe que dans le cadre de cette construction européenne. C'est là qu'on retrouve Robert Schuman et les décisions de 1950 jusque tard. C'est d'abord le système monétaire européen en 78 et puis une intégration de plus en plus grande avec des hommes comme Jacques Delors qui vont jouer là un rôle essentiel, bien sûr.
Jacques Delors, dans ses mémoires, Helmut Kohl qualifie Jacques Delors de grande chance pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il considère qu'on a eu là une constellation très, très favorable avec Mitterrand à Paris, Kohl à Bonn à l'époque et Delors à Bruxelles, président de la Commission. Et tous les trois avaient la même conception de faire avancer l'Europe dans un approfondissement avant un possible élargissement. Et cela se passe au milieu des années 80, c'est-à-dire avant la réunification. Ce n'a pas été une réponse à la réunification, mais un travail de relance après l'eurosclérose et l'euroscepticisme du début des années 80.
Vous faites bien de le préciser, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette réunification de l'Allemagne, elle n'a pas été accueillie avec beaucoup de chaleur de ce côté-ci du Rhin. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant en sciences politiques à cette époque, donc je suivais ça de très près. Et les réticences étaient très grandes, y compris chez le président François Mitterrand, d'ailleurs. Hein.
Alors ça a été l'objet de nombreuses recherches, puisque maintenant on a accès aux archives en grande partie. On pourrait dire, si vous voulez, pour simplifier, que globalement, la population française était favorable.
Oui. favorable. Oui, la population, oui.
Se réjouissait pour son voisin. Alors, chez les dirigeants, et en particulier chez le président de la République, qui était un personnage quand même assez mystérieux, on peut être à peu près sûr d'une chose. C'est-à-dire qu'il considérait, comme De Gaulle, et il le rappelait, comme De Gaulle l'a dit en 59, que la réunification était le destin naturel du peuple allemand. Et qu'on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire et que c'est normal qu'un peuple veuille se réunifier. Mais Mitterrand voulait absolument mettre des limites, c'est-à-dire éviter que cette transformation de la situation au cœur de l'Europe bouleverse les frontières et bouleverse au fond les équilibres et conduise à ce qui va se passer en Yougoslavie, il aura relativement raison, quelques années après, c'est-à-dire un choc des nationalismes. Donc il était d'accord, mais à condition qu'on reste dans un cadre très serré.
Est-ce que les chanceliers de la réunification, c'est-à-dire Gerhard Schröder et de la post-réunification, Gerhard Schröder et Madame Merkel, sont toujours aussi francophiles et aussi partisans de l'alliance franco-allemande maintenant que l'Allemagne est réunifiée, Birgit Holzer?
Je dirais qu'ils savent, ou Schröder savait, Angela Merkel, elle sait qu'elle n'a pas le choix. D'une certaine façon, c'est une évidence qu'elle doit travailler avec la France, collaborer aussi avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, et maintenant François Hollande. Et comme vous avez dit aussi, c'est toujours les personnalités, les couples aussi et qui créent ce lien. Et si les personnalités ne sont pas tellement chaudes, évidemment, ça coince un peu. Et je pense que c'est ce qu'on observe quand même un peu, même si quand on a vu dans l'histoire que les responsables ont peut-être parfois pris des décisions contre le gouvernement ou contre l'opinion publique, aujourd'hui on regrette peut-être un peu ce manque de courage parce que justement en France et aussi en Allemagne, s'il y a des réticences, ça va se traduire dans le comportement des responsables politiques.
Les symboles sont très forts, aussi bien en France qu'en Allemagne, dans cette histoire, dans cette co-histoire. Évidemment, pour le 40e anniversaire du traité de l'Élysée, le fait que les cérémonies aient eu lieu au château de Versailles avait paru incroyable. Quand on sait effectivement ce qu'avait été le château de Versailles en 1871 et en 1919. Et là, le fait que tout le monde se retrouve au Bundestag et à Berlin, évidemment, ça n'est pas sans créer des images assez saisissantes. Et pourtant, on a l'impression que les opinions publiques considèrent ça d'un œil assez distrait, finalement. Hélène Millard de la Croix.
Il va falloir voir ce que cela donne. Les sondages qui ont été évoqués tout à l'heure donnent quand même 85 et 87% d'opinions favorables, avec une image très très positive. Donc je pense que comme toujours, et c'est ça que l'actualité nous réserve toujours, il y a des surprises et la collision entre l'affaire malienne, l'affaire des otages en Algérie, avec cette commémoration planifiée, donne des résultats en effet un petit peu surprenants. On va peut-être avoir l'impression en effet que nous sommes en train de construire quelque chose qui est très solide.
Qui a dit qu'on ne faisait pas d'histoire immédiate dans cette émission ?
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch dort die Liebe. In Göttingen, mir scheint, wir sind weit schlechtere Kenner in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz. In Göttingen.
La grande Barbara sur Europe 1 avec Göttingen.
Et qui s'essaie à la langue allemande, à la langue de Goethe. Mon fils est actuellement en Allemagne pour un échange entre lycéens et j'ai été surprise de constater, nous dit Catherine, que seulement 15 jeunes Français ont été intéressés par cette expérience sur une soixantaine de lycéens sollicités. Et par ailleurs, je constate une certaine désaffection de la langue allemande au profit de l'espagnol, de l'anglais, etc. Donc c'est vrai qu'objectivement, moi qui ai fait allemand première langue, et qui a fait beaucoup d'échanges linguistiques dans les années, il y a très très longtemps, je constate qu'effectivement, ça a tendance à diminuer un peu. Est-ce qu'on voit la même chose du côté allemand envers la langue française, Birgit Holzer?
Ça semble diminuer un petit peu aussi. Après, je pense que C'est un quart des élèves allemands qui apprennent toujours le français.
Oui, quand même, oui.
Mais évidemment,
et qui
c'est ça.
Ils parlent très bien, d'ailleurs, il faut le dire.
Plus ou moins, oui. Mais je pense que justement, la clé, c'est les échanges. La clé, c'est déjà la langue. Mais moi aussi, j'ai été infectée d'une certaine façon par la France, par un échange. Et je pense que c'est comme ça que ça commence. Et justement, c'est sur ce niveau-là qu'il faut travailler, je pense. Et c'est peut-être aujourd'hui une bonne occasion de le rappeler aussi.
Nous avons en ligne le directeur adjoint de la Fondation Charles de Gaulle, David Valence, qui nous propose une exposition justement sur De Gaulle et Adenauer. Bonjour David Valence.
Bonjour.
C'est une exposition à géométrie variable et qui plus est itinérante que vous nous proposez.
Oui, absolument. La façon dont nous avons cherché à travailler, c'est véritablement de faire comprendre d'abord à quel point la réconciliation entre la France et l'Allemagne avait été difficile. Et cela, on le fait comprendre à travers toute une première partie d'exposition qui est consacrée aux itinéraires de Konrad Adenauer et de Gaulle.
Leurs itinéraires respectifs, en fait, oui.
Tout à fait, qu'on met en regard, qui ont été évidemment marqués tous les deux, notamment par la Première Guerre mondiale et par la lutte contre le nazisme. Et puis, dans une seconde partie, on insiste sur ce moment un peu miraculeux, au fond, de l'amitié entre les deux hommes et de la rencontre d'abord à Colombey en 1958, où De Gaulle a reçu Adenauer chez lui en septembre 1958, puis ensuite sur les voyages jumeaux de 1962, où Adenauer s'est rendu en France et De Gaulle en Allemagne, et sur le traité de l'Élysée. Et la troisième partie de ces expositions, car il y en a trois versions différentes, comme vous le disiez, et elle est consacrée à l'héritage du traité de l'Élysée, qui est un héritage qui, dans un premier temps, a été limité, mais qui finalement a donné du fruit beaucoup plus tard, un peu comme ces céréales qu'on plantait autrefois et qui ne donnaient du grain que plus tard que des céréales plus classiques.
Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition sur De Gaulle, Adenauer et l'amitié franco-allemande? On voit des documents, des photos?
Oui, alors d'abord des films. Alors, dans la grande exposition qui est inaugurée par François Hollande et Angela Merkel à Reims le 8 juillet 2012 et qui est aujourd'hui à Berlin au ministère des Affaires étrangères, dans cette grande exposition, on voit notamment il y a plusieurs films, mais il y en a deux principaux sur les voyages respectifs, je disais, donc d'Adenauer en France, notamment à Reims, étape qui était très symbolique le 8 juillet 62. Reims parce que c'était la ville dans laquelle la première capitulation allemande avait été signée le 7 mai 45. Reims parce que c'était la cathédrale des Sacres. Et puis le voyage de De Gaulle en Allemagne en septembre 62 qui était vraiment un voyage triomphal. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais à Munich par exemple, il y avait plus de 60 000 personnes sous la pluie battante qui attendaient pour écouter De Gaulle. Donc, il y a notamment ces vidéos qu'on peut voir, un certain nombre d'objets qu'on expose, même si depuis longtemps à la Fondation Charles de Gaulle, on a fait le choix d'expositions qui ne sont plus seulement articulées autour des objets, mais qui utilisent beaucoup la vidéo. Donc parmi les objets, on a notamment une grammaire allemande sur laquelle De Gaulle a travaillé enfant, car De Gaulle il lisait assez bien l'allemand, et il le maîtrisait à l'oral assez bien.
Oui, on a pu le voir au cours des fameux discours dont je parlais, évidemment.
Tout à fait. Alors,
notamment septembre 62, oui.
Oui, tout à fait. Notamment le discours de Ludwigsburg, qui est sans doute le plus connu, son adresse finalement à la jeunesse allemande le 9 septembre 1962, dans lequel il disait, il faut se rappeler qu'on était 17 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il disait aux Allemands, vous pouvez être fiers d'être ce que vous êtes.
Mais voilà, c'est ça. Hein.
Et ça, on a beaucoup insisté dans l'exposition sur ce moment-là aussi, pour bien montrer que ça a été un processus, cette réconciliation franco-allemande, dans laquelle, évidemment, hormis De Gaulle et Adenauer, d'autres hommes ont aussi pris leur part. Je pense évidemment à Robert Schuman dans les années 50, mais on insiste beaucoup là-dessus. Et j'insiste aussi sur ce point qu'il y a vraiment trois versions d'exposition. Il y en a une grande, qui est à Berlin, il y en a une moyenne, qui est aujourd'hui à Düsseldorf, qui va aller à Lille, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, puis à la maison natale de Charles de Gaulle.
Et puis il y a celle qui se promène dans de nombreuses villes, en fait.
Absolument. Alors il y a la petite exposition itinérante, qui est celle qui est en fait la plus vue, comme souvent les expositions les plus légères, et qui est en ce moment à Saint-Étienne, au musée de la Résistance à Limoges, qui est en ce moment à Brême, que je vais inaugurer à Mulhouse dans quelques heures, absolument. Et donc qui va aller aussi à Erfurt, à Warendorf en Allemagne, qui va aller à Erlangen en Allemagne. Donc
très bien.
Beaucoup.
Merci beaucoup, David Valence. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la Fondation Charles de Gaulle. Fondation Charles de Gaulle qui édite avec les éditions Nouveau Monde 50 ans de relations franco-allemandes, un ouvrage d'Hélène Millard de la Croix.
Et Rainer Markowitz.
Et Rainer Markowitz. Donc, sur ce couple franco-allemand qui, bon gré mal gré, continue de traverser les tempêtes et de mener l'Europe, disons-le. Également de Bernard de Montferrand avec Jean-Louis Thieriot, France-Allemagne, l'heure de vérité, à propos du fameux décrochage français. Et puis je signale, c'est assez passionnant, l'édition du journal de Bonn, ce sont les notes, hein, c'est le journal de l'ambassadeur de France, Henri Froment-Meurice, qui a été ambassadeur donc en 82-83, un moment essentiel de la coopération franco-allemande. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Merci Birgit Holzer. On va lire votre revue, donc Paris Berlin, hein, c'est facile.
Oui, s'il vous plaît.
On peut s'abonner et on peut la trouver en kiosque. Merci beaucoup.